Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia, neste domingo, dia 31 de maio. Aqui vão os temas, vamos começar por fazer o balanço do Congresso Internacional Música e Exílio, que decorre de 21 a 23 de maio, em Lisboa. Pois, um livro, há uma progressão na emissão de hoje. É O Povo é Quem Mais Ordena, do historiador Vítor Pereira, edições Fora de Jogo. Trata-se de uma atualização de um livro que tinha sido publicado em francês em 2023, atualização que teve em conta tudo o que se passou em Portugal há 12 anos a esta parte. Voltando um pouco atrás, Se Débarraque, Le Bidonville Português de Champigny, uma reportagem nunca publicada, que foi realizada entre dezembro de 1967 e novembro de 1968 pelo fotógrafo Jean-Claude Brustaille. Teatro, agora a companhia Teatro Ensaio apresenta a peça Solidão dos Campos de Algodão no dia 10 de junho na Maison de Portugal, cidade universitária. Depois vamos falar com um cantautor. Ele diz que por si mesmo foi baladeiro. Trata-se de A.P. Braga, que acaba de editar um novo trabalho. E a música ainda, mas num tema completamente diferente, compositoras portuguesas, compositriz portuguesa, é o novo repertório para pianistas que foi recentemente publicado. Trata-se de uma seleção de obras pelo pianista Bruno Beltoise. Mas para já vamos até Portugal. O Castro, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. A Congresso Internacional Música e Exílio, precisamente, o Castro faz parte da Comissão Científica, da Comissão Organizadora, e foi um dos participantes, avançou com um texto, já leiremos. Mas para já, resumidamente, como é que nós podemos explicar aquilo que se passou durante estes três dias em Lisboa? Há que referir que isto é no âmbito do projeto Exemos, é preciso avisar toda a gente, música e exílio em França durante o regime de Estado Novo, 1933-1974.
Ora, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Sim, de facto, este Congresso Internacional, que se realizou de 21 a 23 de maio, decorre deste projeto Eximus, que tem vindo a ser realizado desde 2023 e que termina agora este ano, 2026. E foi um congresso, portanto, internacional, que teve como principal objetivo contribuir para o mapeamento da atual investigação sobre a temática da música e do exílio. E, portanto, a ideia era termos perspectivas bastante abrangentes de vários períodos históricos e de vários contextos geográficos e, assim, propormos um olhar multidisciplinar que salientasse, de certa forma, a diversidade das experiências de músicos exilados, imigrados ou refugiados a uma escala internacional. E, de facto, este congresso julgo que teve uma boa recepção e julgo que correu muito bem. Nós tivemos cerca de 30 comunicações, apresentações de investigadores oriundos precisamente de vários pontos do globo, não é? E que se debruçaram precisamente sobre vários contextos diferentes, tanto de um ponto de vista histórico, sobretudo dos séculos XIX, mas principalmente do século XX, mas incluindo também com abordagens ao tema da música e do exílio na atualidade.
Ora, há que ver que este congresso ocorreu, bom, 2026, precisamente, é o momento em que se assinala o centenário do golpe de Estado, 28 de maio de 1926, que deu início à ditadura militar em Portugal. Ora, comparando isso com a situação hoje em Portugal, de maneira que aí houve precisamente um encontro, o de um centenário, mas também de uma realidade que já foi, aquilo que se passou no exílio, e aqui em França eu estou cá, já há tanto tempo conheci a maior parte desses grandes senhores que passaram por aqui, José Mário Branco, Luís Filho e companhia, mas enfim, mas com o dia de hoje, não, o congresso parece que surge no momento exato, não?
Sim, quer dizer, isto foi um pouco coincidente com precisamente o centenário do início da ditadura, e este projeto Eximus tem como objetivo precisamente estudar a música e o exílio em França durante o regime do Estado Novo, e portanto quando falamos do regime do Estado Novo, desde a década de 30 até 1974, precisamente, mas nós consideramos que este tema da música e do exílio, infelizmente, continua ainda bastante atual e ainda hoje em dia temos vários músicos que são forçados a saírem dos seus países para fugirem a diversos tipos de repressão política. E, portanto, a expectativa é que este projeto pudesse-nos também dar-nos também, portanto, estas perspectivas mais atuais acerca do que se passa em diversos pontos do globo.
Ora, houve um certo número de comunicações que eu gostaria, nas próximas semanas, poder entrevistar uns e outros. Por exemplo, como é que isto pode passar para o disco sem perder nada? Isto a propósito das encenações sonoras no Chateau de Erroville, foi aí que foi gravado Grande Oliveira Moreno e não só. Também aquilo que se passou na Mutualité, Mutualité e Vincent, Mutualité é uma sala de espetáculos aqui em Paris com pergaminhos, e a Faculdade de Vincent, precisamente, exílio e crispação em torno da canção da protesto. Aí já entramos naquelas questínculas, como eu lhe chamo, entre a extrema-esquerda. Sem esquecer um depoimento do momento de Luís Cília à Agnès Pellerin. C'est quand je suis rentré au Portugal que j'ai vécu mon véritable exil. Isto para falar do regresso, após o 25 de abril, Luís Cília, a Portugal. Mas falemos da sua comunicação. Acho que é importante porque, bom, eu vou ler um bocadinho a apresentação, mostrar-te a apresentação que fez. Uma parte significativa da canção do protesto portuguesa contra o Estado Novo foi criada e gravada em contexto de exílio, sobretudo em França, desde os meados da década de 1960, e estou a pensar em Luís Cília, até o 25 de 1974. Um espaço de refúgio, mas muito mais do que isso, na medida que o exílio francês marcou igualmente aquilo que se chama a canção de protesto, a luta contra a guerra colonial e contra o regime fascista.
Sim, exatamente. Portanto, esse foi o tema da minha... da minha comunicação, que se trata ainda de um estudo, de certa forma, preliminar, mas que decorre precisamente do trabalho de investigação que nós temos realizado no âmbito deste projeto, e muito em particular decorre também de algum trabalho de pesquisa em arquivos, sobretudo em França, nos quais encontramos bastante informação acerca da atividade dos músicos portugueses que estavam exilados, já nomeou alguns, o Luís Cília, o José Mário Branco, Sérgio Godinho, Tino Flores, entre outros. Mas um dos aspectos que eu quis explorar e que estou a desenvolver investigação nesse sentido é precisamente o de perceber qual é que é a perspectiva do Estado Novo, do regime ditatorial, relativamente à música e à atividade musical que se faz noutros países, no contexto de exílio, em particular em França. E é interessante notar que praticamente desde a publicação do célebre LP do Luís Cília, Portugal, Angola, Chão de Lute, que é publicado em 1964, portanto que é o ano em que o Luís Cília precisamente vai para a França e grava esse disco para a editora Alexandre Mon, uma editora também bastante reconhecida internacionalmente e que tinha ligações também ao Partido Comunista Francês. Mas dizia eu que é interessante notar como é que esse disco, em particular, vai ter um impacto para as autoridades portuguesas, que vão, de certa forma, começar a prestar atenção à atividade dos músicos que estavam em França a partir de meados da década de 60, sensivelmente. Outros, sim.
Não diga, por favor.
Ia dizer que, portanto, que a partir de certa altura, como sabemos, há vários discos que vão ser depois gravados já em inícios da década de 70, nomeadamente em 71, que são gravados em França, precisamente no Chateau de Roville, os primeiros álbuns do José Mário Branco e do Sérgio Godinho, mas também o José Afonso, que se desloca à França precisamente para gravar o Cantigas do Maio, e esses álbuns vão ser marcantes, por um lado, para alguma imprensa musical em Portugal e também para músicos que estavam em Portugal. São de facto álbuns marcantes que refletem de certa forma uma renovação da música popular portuguesa de caráter contestatário, e ao mesmo tempo estes discos vão provocar uma forte reação das autoridades portuguesas no sentido de tentarem controlar de certa forma o impacto desta música em Portugal. e isso vai levar precisamente a uma ordem, no fundo, ou um pedido das autoridades portuguesas, da Direção-Geral de Informação, para as editoras que publicavam estes discos, no sentido de elas passarem a ser convidadas, é o termo utilizado, mas obviamente num sentido de obrigarem estas editoras a enviarem previamente as letras das canções que queriam gravar, que queriam publicar, de forma a estas serem também submetidas ao exame prévio, que era já aplicado noutras áreas de atividade, nomeadamente na imprensa, mas também sobre os próprios espetáculos musicais que se realizavam em Portugal.
Sim, com efeito o cinema, o teatro e por aí fora, mas como é que reagiram aqui as editoras? Estou a pensar em João de Monde, eles foram os primeiros a publicar um certo número de discos, agora estou a pensar em cantos palestinianos, estou a pensar em cantos irlandeses, em cantos da resistência italiana, Bella Ciao e tudo isso. Qual foi a reação? Não sei se teve acesso a documentos, como é que reagiram, sobretudo aqui a São de Mundo?
Da perspectiva, portanto, das editoras francesas, e neste caso em particular da São de Mundo, não temos essa informação de algum tipo de reação. Nós sabemos que alguns discos publicados pela Chandomon, nomeadamente os discos de Luís Chília, circulavam em Portugal e eram alguns deles distribuídos em Portugal, mas as consequências não seriam diretamente para a editora responsável pela edição, mas sim para as distribuidoras que depois faziam esse trabalho em Portugal. E há de facto alguma documentação que demonstra que essas distribuidoras também foram de certa forma algo surpreendidas pelo facto das autoridades, neste caso a PIDE, em Portugal, procurar apreender vários discos, neste caso Luís Chília, não é?
Ora, também na sua comunicação, eu estou a ver a introdução, a explicação que dá daquilo que o tema que vai abordar, diz igualmente que a atividade musical em contexto de exílio ganha maior visibilidade pública e mediática, contribuindo para a renovação estética da canção de protesto portuguesa. Uma explicação, o Castro?
Sim, quer dizer, isso está também relacionado com diferentes perspectivas que existia acerca da atividade artística que era realizada em França. Como sabemos, uma grande parte da produção de música dita contestatária, dos cantores de protesto, caracterizava-se precisamente por dar primazia à palavra cantada, ao poema, portanto à mensagem que era transmitida, geralmente acompanhada à viola, ou seja, neste caso a música teria sobretudo um papel de suporte instrumental. E de facto, como sabemos, outros cantores, nomeadamente o José Mário Branco e o Sérgio Godinho, procuraram abordagens diferentes que conferissem à música, portanto, e ao acompanhamento sonoro, um papel mais relevante no sentido dessa, enfim, que depois foi apreendido, de certa forma, tanto pela imprensa como para alguns músicos, uma característica de renovação da música popular portuguesa. E isto também está diretamente relacionado, obviamente, com a ligação, com a familiarização, neste caso, do José Mário Branco, com o universo dos estúdios de gravação franceses, com as novas técnicas de gravação, com a exploração precisamente dos meios técnicos dos estúdios de gravação para conferir arranjos diversificados e para conferir uma base instrumental mais diversificada das canções que foram produzidas e que de facto se reflete nesses álbuns que eu nomeei, o Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, Margem de Certa Maneira, Os Sobreviventes, Sérgio Godinho, Cantigas do Maio, do José Afonso, entre outros.
Hugo Castro, muito obrigado. Relembro, é investigador no Instituto de Etnomusicologia do Centro de Estudos Música e Dança INET MD da nova FCS. Não consegui dizer isso. Uma última pergunta e depois contamos ter o historiador Vítor Pereira. Vão ser publicadas as atas deste congresso ou não?
Eu julgo que um dos objetivos, sim, é que venha a surgir uma publicação a partir das comunicações que foram apresentadas neste congresso, que, repito, foram bastante ricas e deram precisamente esta perspectiva multidisciplinar a uma temática tão abrangente como a música e o exílio. Eu julgo que um dos objetivos é precisamente esse, que surja uma publicação a partir daqui.
Bom, esperemos que sim. Muito obrigado, Castro, e até muito breve, obrigado. Então. Bom trabalho.
Até breve.
E para dar um complemento a esta entrevista, nada melhor que ouvir o Luís Cília, Meu País, um extrato.
Meu país, do céu límpido calmo, de campos cultivados, de praias e montanhas. Ouço a tua voz triste, ó meu país sem culpa. Ouço-a nos dias maus, no amanhecer cinzento, e é para ti meu canto a mim.
Luís Cília, o meu país. Falamos precisamente de um congresso que teve lugar em Portugal sobre música e exílio, e isto diz respeito a 1933-1974 aqui em França. E agora vamos alargar agora o tema a propósito do livro O Povo é Quem Mais Ordena. Vítor Pereira, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, a apresentação do livro vai ser feita no dia 4 de junho às 19 horas na Livraria Portuguesa de Brasília. Eu que digo a apresentação, mas é da edição em português, que acaba de ser publicada agora, na medida em que aqui em França já tinha sido editado pela Détour, precisamente a versão deste livro, queria dizer. Ora, precisamente desde novembro de 2023, até hoje, já levam 2 anos, não é? Um pouco mais. E o que é certo é que houve muita coisa que se passou em Portugal a que levou o Vítor Pereira de fazer uma alteração, uma atualização, entre aspas, nomeadamente no que diz respeito à introdução do livro. Concretamente, podia-nos explicar para si quais foram aqui os factos mais importantes que se passaram desde novembro de 2023 em Portugal?
Foram várias. Uma, houve as comemorações dos 50 anos, começaram em 2022, acabam em 2026 este ano, e houve dezenas e dezenas de artigos, de livros, de peças de teatro, de peças de jornais, exposições. Então sabe-se melhor agora o que se passou em 74, mas também durante a Revolução, desde há 3 anos, por isso tentei fazer um prefácio, um ponto um pouco do que se tinha estudado, também o que se não tinha muito estudado, o que podia desenvolver mais, e também, obviamente, falei desde 2023, quando o livro saiu no dia 9 de novembro, eram apenas 2 dias depois da demissão do António Costa, primeiro-ministro, e, entanto, nessa altura havia 12 deputados de extrema-direita, e em 2024 eram 50, agora são 60, e, obviamente, a forma como se fala, por vezes, nos médias, na imprensa da Revolução e no debate público, mudou desde então. Então, o prefácio até a conclusão tentam ver como é que se transformou um pouco a visão, ou pelo menos o discurso mudou um pouco sobre a Revolução.
Victor Pereira, on va sauter au français, c'est peut-être plus simple pour tout le monde, mais il faut le dire aussi que finalement la Révolution des Ayers, je cite, hein, a été aussi dénigré par l'extrême droite, ce qui n'a cessé de croître depuis 2023, et a multiplié les mensonges sur cette période historique et sur d'autres. Parce qu'au milieu de tout ça, on a eu le 50e anniversaire du 25 novembre 1975.
Tout à fait. Là, c'est là, comment dire, c'est un enjeu depuis quasiment 50 ans sur qu'est-ce qu'on fête, qu'est-ce qu'on célèbre, et est-ce qu'on célèbre au même niveau le 25 avril et le 25 novembre. Évidemment, pour la droite et la droite plus à la droite, le 25 novembre est la date importante parce que cela permet de dire que la période révolutionnaire était une période de chaos, de danger, de menaces totalitaires, de risques de prise de pouvoir du Parti communiste et ou d'autres organisations politiques ou militaires, et que le 25 novembre aurait permis d'éviter une catastrophe. Évidemment, cela permet toujours de présenter la révolution et cette participation populaire dans des occupations, dans des manifestations, dans la vie politique et quotidienne, comme quelque chose de néfaste, alors que la démocratie, c'est aussi la participation. Ça permet aussi d'oublier une chose relativement simple, c'est que les premières élections libres et démocratiques ont eu lieu pendant cette période prétendument quasi-dictatoriale, c'est-à-dire le 25 avril 1975. Et donc, pour une partie de la droite, le legs de la révolution et de cette participation populaire est vu comme un problème, tandis que pour une partie de la gauche, c'est vu comme totalement partie de la démocratie portugaise telle qu'elle est créée en 76. Et c'est parmi une partie de la droite qui a disparu pendant la révolution de dire que le problème, c'est pas la dictature et le legs dictatorial de Salazar et de Caetano, mais c'est le legs de la révolution, c'est-à-dire de, en partie, pour une partie de cette droite, de blanchir la dictature et de noircir la période révolutionnaire.
Alors, Victor Pereira, dernièrement, et surtout bon, ces dernières semaines, vous avez participé à énormément de colloques, parce que notamment, bon, je vais citer un, mais il y en a plein, hein, parce que même vos livres ont été présentés à l'Institut franco-portugais, à l'ambassade de France à Lisbonne. Vous avez participé à plusieurs débats là-bas. Alors, je parle de la table ronde au Museu da Juve, Resistência e Liberdade, et le thème, hein, je le dis en portugais, os desafios de um arquivo da história oral da resistência e da militância. Alors, concrètement, de cette confrontation avec d'autres historiens, mais pas seulement sociologues et tout ça, qu'est-ce que vous dégagez tout ça? Parce qu'il y a des... Bon, on se préoccupe un petit peu de la situation actuelle et on a dit, bon, on n'a pas tout à fait compris ce qui s'est passé en 1974 et les années suivantes.
Cette table ronde qui a eu lieu vendredi dernier au musée de Waljoub, qui est devenu une ancienne prison politique, qui est devenue un musée, qui a une forte activité, était notamment, ça permettait à un programme de recherche dirigé par Louis Trindad, qui est un historien, et notamment un historien de la Révolution, mais aussi un historien de la chanson. Juste avant, on parlait, j'entendais Louis Cilia. Louis Trindad a publié un bouquin sur la chanson au Portugal, après la Seconde Guerre mondiale et sur différents chanteurs que vous connaissez, que vous passez souvent. Et ce projet de Louis Trindade, c'est d'essayer de faire une histoire orale des gens communs, des gens, des militants de base, ceux qui ont participé aux syndicats, ceux qui ont participé aux commissions de travailleurs, ceux qui ont participé aux occupations de terres dans l'Alentejo et le Ribatejo, parce que souvent, ce qu'on garde de l'histoire orale, c'est souvent l'histoire des élites, des hommes politiques, des militaires les plus haut gradés. Et souvent, il y a toute une dimension de cette période qui on connaît moins ou moins en détail parce que les témoins témoignent pas ou témoignent peu ou que les historiens ne vont pas recueillir leurs paroles. Et cette rencontre où participait également Sonia Frey, que vous connaissez probablement, était sur les enjeux de comment mener l'enquête, mais aussi beaucoup de questionnements ces dernières années sur l'éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ensuite ces archives? Est-ce qu'on peut les rendre disponibles? À qui? Dans quelles conditions? Il ne s'agit pas non plus de déposséder les enquêtés de leurs paroles. Donc c'est en partie sur ces questions qui ont un versant juridique, notamment, qu'on a parlé vendredi dernier.
Alors, et pour un historien, avoir accès aux archives, surtout qu'il y a des archives secrets d'État, entre autres. Et en ce moment, au Portugal, il y a un grand débat au sujet qu'il soit public. Au public, c'est à savoir pour les historiens, etc., pour les chercheurs, ait accès au dossier. Ça concerne les FP, Forces Populares, 25 d'avril, mais également, ça concerne les attentats d'extrême droite. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu quels sont les enjeux de tout ce qui est en train d'être débattu aujourd'hui?
Bien sûr. Alors, en fait, c'est notamment une proposition d'un député du Bloc Skills sur le SP25 et comme ça vient après d'autres questionnements, mais d'autres débats, mais notamment le récent débat qu'il y a eu entre l'historien et homme politique José Pacheco Pereira et l'homme politique d'extrême droite, André Ventura, où notamment les FP25, donc qui est un groupe d'extrême gauche terroriste qui a mené notamment des actions d'attaques de banques, certains ayant causé des morts. C'est souvent été utilisé pour disqualifier la période révolutionnaire et surtout un personnage qui a été lié, mais dans une dimension qui n'est pas toujours aisée de saisir, de Hotel Salas Carvalho, celui qui a organisé, avec d'autres évidemment, mais qui a été à la Pontine le 25 décembre 1974. Et donc, les FP25 qui ont existé et dont on peut attribuer une vingtaine de morts sont souvent utilisés pour, dans une grande mélange, pour disqualifier Hotel et plus largement pour disqualifier en partie les militants d'extrême gauche ou de gauche après le 25 avril. Et donc, il y a eu récemment un livre qui a été publié au Portugal de Francisco Barão Ruivo, qui est un historien, qui a notamment fait un livre très sérieux publié il y a quelques semaines à titre de Chine. Il y a aussi l'ouvrage dont vous avez sûrement parlé d'Yves Léonard sur Othello, La voix de la révolution des œillets chez Chardin et Lima. Et donc, en fait, les FP25 ont beaucoup servi à disqualifier, et donc ce député, qui est d'ailleurs d'un parti plutôt à gauche, a dit, mais ouvrons les archives, ouvrons ce qu'il y a dans la justice militaire, sur la justice, dans les archives militaires, pour vraiment savoir. Parce que, notamment, ce que met en avant Francis Duron, Barão Ruivo, pardon, c'est qu'une chose qu'on évoque moins, et dont on n'arrive pas à accéder aux documents, c'est le terrorisme d'extrême droite qui a existé dès 74-75, notamment avec le MDLP, avec le HELP, avec d'autres groupes qui, non seulement n'a pas arrêté ses actions le 25 novembre 75, quand prétendument c'était la fin de la menace communiste, mais qui a continué une action terroriste avec des morts et des décès aussi dans quelques dizaines, jusque vers la fin des années 70. Pour donner un exemple parisien, en décembre 75, donc après le 25 novembre, une bombe a explosé devant l'ambassade du Portugal à Paris, détruisant des voitures, détruisant la porte d'entrée, heureusement ne commettant aucun mort. Mais donc l'idée de cette proposition est d'ouvrir les archives, mais toutes les archives, pour qu'on puisse réellement savoir au mieux. Parfois, les archives ne nous permettent pas de tout saisir précisément, mais d'éviter l'instrumentalisation politique des FP25 telle qu'elle a été faite depuis de nombreuses années.
Oui, d'autant plus parce qu'il y a eu des jugements, hein, mais personne n'a été condamné. Et je vais pas, c'est pas c'est pas rien de nouveau, c'est que je vais dire maintenant. Mais l'actuelle présidente du groupe. À l'Assemblée de la République, je vais parler du groupe Cheikh, c'est quelqu'un qui a été impliqué là-dedans. C'est public, tout le monde est au courant de ça, mais par rapport aux attentats d'extrême droite, vous avez cité plusieurs groupes, il n'y a jamais eu de personne n'a été condamné, et pourtant on connaît ça. Bon, il y a ça, pour un historien, comment vous pouvez expliquer ça?
Oui, c'est vrai, et là encore, je m'appuie sur les deux récents livres que je vous ai cités, c'est-à-dire qu'il y a eu un long jugement assez médiatique dans les années 80, où notamment Hotel Salas Carvalho a été jugé, puis ensuite il a été libéré, ensuite il y a eu une amnistie, mais ensuite il y a eu de nouveau un jugement où il a été dit qu'il était impossible d'attribuer une quelconque responsabilité à Othello, mais d'un autre côté, il y a eu une certaine tolérance des autorités, notamment judiciaires. De fait, personne de l'extrême droite a été jugé. Et le cas le plus paradigmatique, c'était le chef du MDLP, qui est Antonio de Spínola, qui est effectivement le premier président de la République après le 25 avril, qui quitte la présidence le 30 septembre, qui est ensuite impliqué dans un contre-coup d'État le 11 mars 75, et qui, depuis l'étranger, va donc à fonder le MDLP, et donc une structure avec une dimension avec des bombes, une raid bombiste, comme on dit en portugais, où Spínola est tombé dans un piège que lui a tendu un journaliste allemand qui faisait croire qu'il vendait des armes, et Spínola a été le voir pour acheter des armes pour organiser un coup d'État au Portugal. Bon, ça a été Spínola, après cet article, il a été notamment expulsé de Suisse où il vivait, la France ne voulait même pas le recevoir, parce qu'il sentait le soufre. Il est rentré au Portugal, il a été interrogé une nuit, il n'a plus jamais eu aucun problème avec la justice, alors qu'il a dirigé, de fait, une organisation qui avait une dimension armée et qui est responsable de plusieurs morts. Il y a le très célèbre Paz Max qui a été tué avec une personne qui était dans sa voiture, mais il y a aussi une bombe qui a été placée devant ou dans l'ambassade de Cuba à Lisbonne et qui a causé deux morts, mais il y a eu plusieurs morts causées par l'extrême-droite qui, eux, en revanche, n'ont pas été jugés. Il n'y a pas vraiment eu de réelle enquête sur cela, parce qu'on n'a probablement pas voulu démêler cette action.
Oui, tout à fait. Bon, c'est pas pour rien que l'ancien premier ministre et président de la République, Vaxil, a justement donné la retraite, les pensions de retraite, avec réactivité à un grand dirigeant de la police politique, et l'a refusé à un capitaine d'avril, et je vais pas parler de Sanguil Maï, mais enfin, les pides n'ont jamais été jugés, etc., etc. Bon, ça, c'est aux historiens d'étudier les choses et de nous faire connaître leurs conclusions. Vital Preux, je vous remercie. Donc, ou pour vous, et que Maïs ordonne, alors, justement, fora de jogo, éditeur, fora de jogo. Bon, et donc, vous allez être parmi nous à Paris le 4 à 19h à la librairie portugaise et brésilienne de 1921 rue des Fossés de Saint-Jacques à Paris 5e. Alors, dernière petite note, hier vous avez été à Feira do Livro?
Oui, tout à fait. Le livre a été présenté à la Feira do Livro de Lisbonne. Ah, et j'ai eu le grand plaisir que le livre a été présenté par Fernando Pereira Marques, qui est un historien, mais qui est aussi un ancien exilé en France, qui a participé à mai 68, sur lequel il a publié un ouvrage, et qui a milité au sein d'une structure qui s'appelait La Loire, la Ligue d'Union et d'Action Révolutionnaire, dont le militant le plus connu était Élimine Desparmenas, qui a été arrêté en 68, emprisonné, qui d'ailleurs a publié très récemment un ouvrage que je vous recommande qui s'appelle Arte, c'est portugais, où il raconte ses quelques années en France et quand il a été arrêté, c'est plusieurs mois de prison à Caxias et à Peniche. Et donc, il a présenté mon ouvrage et on a eu une discussion sur la révolution et notamment sur le rôle réel ou supposé pour beaucoup de services d'enseignement de la Loire et de Parmenas.
Dernière question. Donc, vous avez des contacts avec l'État qui ont acheté le livre pendant la Feira do Livro ou pas du tout? Parce que c'est intéressant. Et quand vous participez même dans des congrès, dans des, pour faire la présentation du livre, en résumé, quelle réaction vous avez des gens qui sont présents ou des lecteurs de votre ouvrage? Il y a des réactions?
Mais souvent, les gens, quand ils vont dans des présentations de livres, ils n'ont pas lu le livre au préalable. D'accord. Donc, ce qui ne permet pas toujours des réactions. Mais là, en l'occurrence, c'était parfois des gens viennent parler et souvent, je leur pose la question qui est de savoir pourquoi ils achètent ce livre. Parce que souvent, quand on achète un livre, c'est quand on a un intérêt pour le sujet. Et là, par exemple, hier, deux personnes sont venues et notamment parce que leurs parents avaient milité au MDP, qui était une structure de l'opposition à la dictature. Et je pense que c'est aussi pour eux de connaître une période importante de l'histoire du Portugal, mais aussi une période qui était souvent fondamentale dans la vie de milliers de personnes au Portugal, mais aussi à l'étranger.
Voilà. Vital Pereira, je vous remercie. Donc, le 4 juin, à partir des 19h, la librairie portugaise et brésilienne à Paris, Paris 5e à deux pas. C'est tout près du Panthéon, mais enfin, merci bien.
Merci beaucoup. Merci.
Alors, maintenant, on va encore reculer dans le temps. Parce que, bon, on a parlé entre 1933 et 1974, musique, exil, etc. Maintenant, on a parlé du pauvre Maïs-Ordène, à savoir, c'est de la révolution du 25 avril. Et maintenant, on va parler d'une période qui a marqué la communauté portugaise. Je veux dire, leur arrivée en France et le passage obligatoire, entre guillemets, par les bidonvilles. Ceci à propos d'un livre qui sortira le 15 juin, sauf erreur de ma part, se débarraque le bidonville portugais de Champigny, photographie de Jean-Claude Brustaille, présenté par Catherine Dupuis et Christian Rabhi. Monsieur Christian Rabhi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il faut dire aussi que, donc, ces éditions Écrits de Lumière, en résumé, c'est Écrits de Lumière avaient déjà publié un certain nombre d'ouvrages, mais ça n'avait rien à voir ni avec le Portugal, ni avec la France.
Oui, en fait, Écrits de Lumière, c'est une association qu'on a créée avec Éric Chauvin, qui est une association à la fois d'édition, de valorisation et d'exposition de fonds photographiques inconnus. Donc on s'intéresse depuis 2006 en fait à des fonds photographiques qui ne sont pas connus de l'histoire de la photographie et qu'on essaie de faire connaître en les exposants et en publiant. Donc on a publié une petite dizaine d'ouvrages, 4 qui étaient consacrés à la photographie albanaise et à l'histoire de cette photographie en fait ottomane à la fin du 19e et au début du 20e siècle, avant la dictature de Hoxha. Et puis après, on s'est intéressé à un fonds photographique très important en France, qui est la Bannière de Bigorre, et qui a 1 million de négatifs, un peu sur tout support, sur un siècle de photos et 3 générations. On a fait un accord avec la ville de Bannière de Bigorre, avec le département, les archives, etc., pour publier et valoriser ce fonds, et afin de faire numériser, que quelqu'un s'en occupe. Mais en attendant ça, ce qui commence à se faire maintenant, on a travaillé pendant 8 ans sur la valorisation de ce fonds, avec 4 livres qui sont sortis, et puis tout un tas d'expositions.
Alors, valorisation, je pense que je peux utiliser le terme, puisque ces photos, bon, publiées en livre, on parlera à la fin, parce qu'il y a un certain nombre d'expositions qui sont de prévues, mais finalement, c'était un travail richissime, on va le détailler un petit peu tout à l'heure, et qui est passé complètement sous les radars. À savoir, bon, finalement, les photos qui sont dans ce livre, vont être dans ce livre, il faut attendre le 15 juin, sont inédites, c'est vrai?
Tout à fait, oui. Alors, non seulement elles sont inédites, mais elles-mêmes une histoire. On va publier la dernière des expos qu'il y aura cette année, sera à la Contemporaine à Nanterre, et en même temps on va publier un article avec donc Catherine Dupuis sur l'histoire de ce fonds photo, en fait, parce que c'est à la fois un fonds photo qui a 60 ans, puisque c'était donc les 67 et 68, mais aussi il y a tout un tas de... Il y a des raisons pour lesquelles ces photos n'ont pas été publiées, des bonnes et des mauvaises raisons. Et ce qui est intéressant dans la progression de sur un an et cette visite, 217 ou 219 en fait négatifs, c'est que en fait au départ c'était très institutionnel, il était mandaté par le réveil du Val-de-Marne, qui est un hebdomadaire communiste de l'époque, pour faire des photos de la visite de Georges Marchais, qui à l'époque n'était pas encore au comité central, et en fait il s'est pris au jeu d'une certaine manière, c'est-à-dire que après ces photos un peu institutionnelles, il a commencé à se balader dans le bidonville, rencontrer des gens, et en fait au fur et à mesure de ses visites, qui ont été interrompues en fait par les événements de 68, où il avait autre chose à faire, effectivement, par l'actualité, quoi. Mais autrement, après, il y est retourné assez systématiquement, et il est rentré petit à petit dans ce qu'on appelle les baraques, qui en fait étaient quand même assez en dur dans le bidonville portugais, plus que dans d'autres bidonvilles. Et en fait, il a réussi à se faire adopter. Il y a des photos qui sont très, très intéressantes et très, très, je dirais, très sensibles, où on voit des gens lui sourire à travers des portes. Enfin, il y a toute une espèce de connivence qui s'est créée entre les gens du bidonville et lui. Et les reportages suivent cette intimité progressive qu'il a avec les personnes qui vivent donc dans ce bidonville, essentiellement portugais, donc à Champigny. Tout à fait, oui.
Alors, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, bon, Jean-Claude Brustail a dit, bon, les gens y allaient, mais c'était plus des sujets qu'il allait photographier, parce qu'il y avait, il a vraiment établi des relations d'amitié avec les gens, parce qu'il se disait, bon, mais il faut les regarder, parce que, et en même temps, c'est Jean-Claude Brustail, il a encore fait des photos quand on parlait déjà de destruction du bidonville.
Oui, tout à fait. Lui, en fait, arrive... Bon, le bidonville s'est construit à la fin, petit à petit, donc à la fin des années 50, et il va être totalement détruit avec donc les dernières lois de Chaban-Delmas, donc en 72... Enfin, 71-72. Mais lui, en fait, va à un moment où il y a une... Là, il y a déjà eu 18 éléments de reclassification, on pourrait dire. C'est-à-dire, le bidonville est résorbé progressivement. On est passé de 10-15 000 personnes, c'était assez difficile à savoir exactement, enfin, en tout cas, une bonne dizaine de milliers de personnes, à 2-3 000 personnes à l'époque où il y va. Et on voit d'ailleurs en arrière-plan, c'est pas son objet du tout, mais en arrière-plan, les scènes sont souvent, sauf quand elles sont dans les intérieurs, mais autrement sont souvent bordées en fait d'éléments détruits du bidonville qui ont déjà commencé à être détruits. Certaines familles ont été replacées, beaucoup de, alors soit célibataires, soit hommes seuls, qui venaient donc pour travailler, soit qui laissaient leur famille au pays, soit qui étaient effectivement célibataires, ont déjà été en grande partie remis dans des relogés ailleurs, dans des cités d'urgence et autres, pas forcément dans des conditions meilleures que le bidonville. Mais en tout cas, la résorption est en train de se faire.
Oui, et d'ailleurs, j'ai encore connu des cités transit. Je pense qu'entre autres, au Plessis-Trévise, ça se touche tout ça, Champigny,
oui, bien sûr,
ça se touche complètement. Et pour dire, bon, personnellement, je ne devrais pas le dire, mais enfin, j'ai pataugé, j'ai mis mes pieds, encore, j'ai pataugé dans la boue, dans ces bidonvilles, et j'ai vu les hirondelles, c'est comme ça qu'on appelait les policiers à l'époque, longues trucs noirs, là, quand ils sortaient un vélo. Il sortait pas plus tellement droit, si droit que ça. Hein. Parce que heureusement qu'il y avait le porto. Alors, bien entendu, Christian Rabhi, je vous remercie. On va revenir une fois que le livre sera publié, quand il commencera également à voir les expositions. Et ce mois, je vous inviterai à venir ici pour qu'on puisse avoir davantage de temps pour parler. Et pour terminer, quand même, une référence. À l'époque, Jean-Claude Brustail, il avait 23 ans. Il est bien 23 ans. Et surtout, je pense que dans les photos, c'est tout simplement, digamos, sa sensibilité aux injustices sociales qui sont, disons, qui sont crachées, je passe l'expression.
Oui, qui se manifestent de manière assez précise et très, très sensible. C'est vrai que c'est une photo, il n'est pas le seul à avoir été faire des photographies, donc, à l'époque, dans le bidonville, entre 65 et 68. Mais en fait, à la comparaison, c'est celui qui va le plus dans l'intime, qui va faire des photos au plus proche, jusqu'à des portraits d'enfants qui sont vraiment extrêmement incroyables, enfin, vraiment très très beaux.
Ah oui, parce qu'on connaît d'autres grands photographes. Je cherche le nom maintenant, j'ai oublié.
Alors, il y a plusieurs photographes, il y a De Marcy, il y a surtout Eisenstark, qui était le photographe de l'Humanité, et qui a accompagné dans sa première visite, Brustail. Mais de fait, les photographes sont restés quand même à l'extérieur du bidonville, dans le bidonville, mais à l'extérieur. Paul Almassy a fait des photos. Alors on retrouve des thèmes, même des personnages identiques, des gens du bidonville qu'on trouve identiques aussi bien en 65 qu'en 68, entre, par exemple, Blancourt, Gérard Blancourt et Jean-Claude Brustail. Mais Blancourt est beaucoup plus célèbre que évidemment Brustail, puisque lui a eu toute une carrière de photographe, alors qu'une des caractéristiques de cette histoire de la photographie un peu intime, c'est que c'est une photographie en fait qui s'arrête parce que le photographe arrête de photographier. C'est-à-dire qu'après quelques années, dans les années 70, il va arrêter la photographie pour des raisons familiales. Et donc, c'est une espèce d'éclair de lumière sur une petite biographie de photographe très courte, mais qui est vraiment a fait des photographies très, très belles de ce bidonville.
Merci, M. Christian Rabhi. Alors, la première exposition, ça sera dans le cadre des rencontres photographiques de Trièves. C'est Bombix à Mans, du 27 juin au 30 août. Après, Boulevard des Potes à Bordeaux à partir du 12 novembre. Donc, tous ceux qui passent par là, mes amis, bon, il faut y aller. Sans oublier, il faut attendre le décembre 2026. C'est la contemporaine. Maintenant, on aura le temps de parler avec ça. Alors, entre-temps, pour que le livre puisse être publié, il y a une souscription qui est en train de se faire.
Tout à fait, oui. À partir de d'ici, dans la semaine, on va lancer. Là, le livre est en fabrication. On vient de signer le bon à tirer. Donc, le livre va être en fabrication cette semaine. Et en même temps, on va lancer à la fois un avis de publication aux librairies, aux institutions, etc. Mais aussi un élément de souscription pour avoir le livre un petit peu moins cher avant qu'il soit vendu à prix public, avec en cadeau 5 cartes postales des anciens livres qu'on a publiés. Voilà. Et c'est un prix préférentiel, voilà. Donc, qui aide en fait à financer, comme on est une association qui n'est pas à but lucratif, à chaque fois on lance une souscription qui nous aide en fait à financer le procédé d'impression.
Voilà. Alors, pour donner les contacts pour le faire, c'est bon, les gens vont oublier. Le mieux, c'est de passer par les réseaux sociaux. Comment on fait exactement?
C'est Écrit de Lumière, c'est assez facile à trouver. Écritdelumière.fr, et vous êtes sur le site d'Écrit de Lumière, écritdelumière.fr. On a tout un mailing dont. Évidemment, la radio, votre radio fait partie. On va envoyer donc toutes les informations qui permettront aux gens donc de retrouver ces adresses.
Voilà, merci Monsieur Rabhi. Bon, l'invitation est faite, hein, parce que
elle sera honorée.
Je pense qu'effectivement c'est plus qu'important, parce que se rappeler l'histoire, faut connaître le passé pour connaître le présent et préparer le futur.
Tout à fait, d'autant qu'il y a quand même quelques millions encore de personnes d'origine portugaise qui vivent en France, donc ça, c'est à la fois une histoire française et une histoire portugaise. Donc
c'est quand même intéressant. Ça fait partie de la histoire des deux pays portugais.
Absolument, absolument.
Merci Monsieur Rabhi. Et bien entendu, bon, il y a souscription pour que le livre puisse être une réalité. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, segunda hora de Passagem de Nível deste domingo, dia 31 de maio. Agora, meus amigos e minhas amigas, vamos ao teatro. Com efeito, a Companhia Teatro Ensaio vai apresentar a peça Solitude des Champs de Coton. É como quem diz, na solidão dos campos de algodão. A representação terá lugar dia 10 de junho às 19 horas, na Mesa 1 de Portugal, André de Gouveia, Cidade Internacional de Paris. Pedro Estoninho, muito boa tarde.
Viva! Bom dia, boa tarde.
Para nós é boa tarde. Bom, e para vocês também já é um bocadinho boa tarde. Ora, lembra ator, autor, encenador, aliás é o Pedro Estorninho que encena esta peça. Esta peça tem uma história, porque aparentemente vocês já tinham ideias num certo número de peças, mas finalmente foi esta que vocês escolheram na solidão dos campos de algodão. Tem a sua razão, acho eu.
Sim, claro que sim, evidente. Bom, para já, uma razão pessoal, é uma peça que decidi transformar em espetáculo, porque foi um dos primeiros textos que vi do Coltés, foi em 1990, em Lisboa, no Teatro Aberto, e que me apaixonou de imediato. Depois, normalmente, nós no Teatro Ensaio trabalhamos por anos temáticos ou por quadriénios temáticos, dos textos, as ações, atividades, o serviço educativo, tudo vai girar em forma desse tema que escolhemos. E, infelizmente, o estado do mundo obriga-nos a falar do conflito. E, neste caso, conflito em toda a latitude que nós conhecemos. Este espetáculo vai exatamente pôr-nos as palavras na boca, se é assim que eu posso dizer. Porque é realmente o grande texto do duelo dialético, é o grande texto do poder da palavra. E segundo o próprio Coltés, que dizia que fazia teatro para ser dito, fala neste texto da grande impossibilidade da comunicação, ou seja, de seres humanos estarem, falarem e não conseguirem comunicar.
Uhum.
E então achámos o ideal, foi o espetáculo ideal, para além do amor que já tínhamos ao texto.
Uhum. Ora, a confiança, isto faz lembrar os negócios antigos, não é? Não havia papéis, havia confiança. É isso que falta um pouco na sociedade atual, porque há este diálogo, aliás, a interpretação é João Delgado Lourenço e Rui de Noronha Osório, há que o citar, precisamente um diálogo, mas... Para além da confiança, finalmente, é ouvir o outro, é saber que, por exemplo, podemos estar no mesmo sítio e à mesma hora, vamos ser completamente, ser alheios uns aos outros, concretamente porque a peça levanta um certo número de questões, não digo pessoais, mas de como é que a sociedade funciona.
Exatamente, exatamente. Aliás, a palavra conversa, na sua origem, vem de negociar, de marcar. A continuação de ligação. Neste caso, tu disseste uma coisa muito importante, quer dizer, nos ouvirmos uns aos outros, não é? Isso leva-nos a uma questão que também é empatia. O teatro trabalha com uma coisa genial, trabalha com exatamente a maior criação, talvez, da humanidade, que é a linguagem. É a linguagem que faz com que eu te conheça e que tu me conheces a mim. É a linguagem que faz com que eu quebre os muros. É a linguagem que faz com que dois seres humanos possam entrar numa rua, numa sala, em qualquer lado, a determinadas horas, sem se conhecerem. E a agressão não seja o principal motivo, aparentemente. Neste caso, é exatamente o ponto da confiança e da não confiança. E neste momento acho que não é só a confiança que caiu, que a confiança é uma palavra muito cara, não é? É, para além da confiança, é a linguagem. Não é por falarmos a mesma língua que temos a mesma linguagem, não é? Por vezes pelo contrário. E a linguagem e a língua tornou-se, tomou a palavra como uma das grandes, talvez, males do mundo, ou seja, parece que a palavra neste momento é inimiga e, acima de tudo, está a tratar mal quem sabe usar.
Sim,
vemos o espaço público, ou a voz do espaço público é dada, bom, enfim.
Mas, Pedro Escondinho, dialogar com alguém não implica haver confronto, porque nós podemos colher frutos daquilo que o outro está a dizer, não?
De todos terão dividendos.
Uhum. Contigo dividendos, bom, não estou a pensar do ponto de vista contabilístico. Cuidado,
não. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Não, dividendos, a palavra dividendo não tem que ser uma coisa errada ou má. Nós tiramos dividendos dos nossos amigos no sentido positivo, tiramos dividendos com os nossos professores, tiramos dividendos com os nossos mestres, tiramos dividendos com a nossa família. Eu tenho um filho com 8 anos, ambos tiramos dividendos fantásticos um do outro. Ele ensina-me coisas que eu já vou perdendo, digamos assim, com este confronto de adulto com a vida, coisas tão simples que ele observa e que realmente às vezes passamos por elas e não temos tempo ou já não nos passa pela cabeça olhar para elas, qualquer coisa assim. Os dividendos existem e não têm que ser negativos, obviamente.
Ora, a peça, bom, para já eu vou anunciar, bom, para que as que possam estar no início do mês de junho, Vila Nova de Gaia, meus amigos, 5, 6 e 7 de junho, sexta e sábado às 21h30, domingo às 16h, horas portuguesas, na Tuna Musical de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Isto é no próximo mês de junho, mas depois vocês vêm até aqui. Significa que, por simplesmente, esta peça, bom, a peça é em português, mas tem legendas em francês. Como é que vocês se vão organizar para representar a peça aqui em Paris?
Bom, isso já temos o nosso processo, laboral, o nosso processo profissional laboral, como temos feito com os outros espetáculos que temos apresentados aí, e aí não só, como apresentamos em Espanha e por aí fora. É um processo simples, o público cada vez tem sido mais a ver os nossos espetáculos. Sabe que vai se confrontar, neste caso até com uma coisa belíssima, vai se confrontar com o próprio texto, ou seja, subtítulo, não é legendado. Os atores falam em português por uma questão de manter o ritmo, manter a energia que implicámos no espetáculo, e até por pedido, digamos assim, por incrível que pareça, tem-nos pedido para ser sempre em português. E depois são as legendas que passam, como qualquer espetáculo que esteja num festival de língua estrangeira, e as pessoas assistem.
Ora, relembro aqui em Paris, 10 de junho às 19h, Maison de Portugal André de Gouveia, 7 Boulevard Jourdan, em Paris 14, na Cidade Internacional de Cidade de Paris. Aliás, é uma casa que foi a tua casa, o momento dado não foi, Pedro, não estou a divulgar segredo nenhum, pois não?
Foi a minha casa, exatamente. Ou seja, foi a minha e de muita gente, não é? Foi a minha casa e de muita gente. Ainda há cerca de 2-3 semanas, um conhecido comum, também teu, me falava disso, de como é que eu me sinto quando entro lá. Eu disse, olha, para já a casa está diferente, como todos sabem, como a comunidade portuguesa, e não só. Sabe que as obras modificaram um pouco a estética e a arquitetura da casa. O próprio auditório, que agora é o Auditório Fernando Pessoa, também foi renovado.
Felizmente.
Sim, sim, e bem. Foi renovado e acolhe cada vez mais uma programação fora de série. É de tirar o chapéu ao diretor, ao João. É uma casa que foi minha e que, quando eu entro lá, aquela sensação de quando se conhece um amigo e não se está 2 ou 3 meses com ele e parece que estivemos no dia anterior. é que é casa comigo. É, entro lá e parece que saí de lá ontem, ou estive lá há poucas horas à conversa à porta.
E voltas para lá. E a propósito, este ano não temos nenhuma oficina?
Sim. Logo no dia 8.
Muito obrigado pela informação. É por isso é que eu faço a pergunta, Pedro.
vamos ter uma oficina dedicada no, ao Sérgio Romão Leia, no Liceu, para de língua portuguesa, obviamente, mas mediado pelo teatro, não é? Uma oficina de português, mas mediado pela ação teatral, que vai ser ministrada pela Inês Leite. E vai ser no dia 8 dedicado aos alunos do São João Romão Leia, do Liceu.
Do Liceu, São João Romão Leia. É a mais antiga secção internacional de português aqui.
Exatamente.
Em França, aqui a referir, e é aquela que tem todos os polos, vai desde a pequenina infância até o 12º, que eu chamo o 12º ano em Portugal. Ora, entrada é gratuita, no limite dos lugares disponíveis, evidentemente, e vocês dão mesmo no telefone informações de reservas, 00351-918-626-345. Bom, isto é importante também, porque como vocês fazem também, circulam por Portugal, bom, vocês foram criados no Porto, mas tem a impressão que agora estão mais no Sul.
Nós fomos, a companhia nasce sediada na cidade do Porto, mas como trabalhamos, obviamente, com o Ministério da Cultura e com a DG Artes, somos e bem, palavra obrigada aqui também não é negativa, a fazer trabalho pelo país. Circulação, criação, ainda agora na última sexta-feira, tivemos a apresentação de um espetáculo com os alunos da escola secundária aqui aqui em Portugal, de Arreolos, da Vila de Arreolos, uma parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II, no qual fomos convidados na figura da Inês Leite para trabalhar com os alunos da escola. E portanto, trabalhamos na Guarda, trabalhamos no Sul, trabalhamos a Norte, trabalhamos mais a Norte ainda que o Porto. Neste momento temos uma parceria com o Teatro Municipal de Bragança para os próximos 4 anos, 4 coproduções seguidas, uma coprodução por ano com o Teatro Municipal de Bragança. Mas sim, é uma companhia, já não se usa a palavra itinerante, não é? Agora já não se usa a palavra, mas sim, trabalhamos em vários polos, e não só, não é? Vamos também agora trabalhar para o ano que vem com o Centro Dramático Galego, em Santiago Compostela.
Isso é importante porque, bom, eu sei que uma das entrevistas, já foi há um certo tempo, vocês receavam-se os apoios das autoridades ditas competentes no setor da cultura em continuar ou não, aparentemente, mantém-se tanto teatro e ensaio, já passaram, bom, fazem ensaios, evidentemente, para criarem uma peça, mas é outra história. Pedro, muito obrigado, damos encontro aqui, bom, no dia 8, no Liceu São João Leia, bom, isso é uma organização do estabelecimento de ensino, não é, senão dia 10, às 19 horas, mesmo onde Paulo Tigre André de Gouveia, vocês têm o ROR, a estação é Cité Universitaire, fica mesmo em frente, não há nada que enganar. Obrigado, Pedro, e
obrigado, bom
regresso aqui em Paris, então.
Obrigado, força.
Até breve, então. Muito obrigado. E agora, vamos falar de música. Música, mas com alguém que começou nestas lides em 1966. Quero-me referir a P. Braga e Alvito. É o título do novo álbum deste cantautor. Ele diz, não sou um baladeiro, mas enfim. Talvez seja um cheirinho, precisamente, da música que ele faz e do álbum Alvito. Guitarra.
Naquela furna redonda, daquela praia deserta, perto da terra e do céu, dormiu ontem uma onda e hoje mal o sol desperta, sai a onda e entro eu. Fico sentada na areia a ver o mar que me ronda e que me quer abraçar. Sei que até a maré cheia, até chegar outra onda, serei guitarra do mar. Sei que até a maré cheia, até chegar outra onda, serei guitarra do mar. Em breve em mim é que estou as ondas e entram e saem peixes, algas e navios. Em mim as gaivotas voam, em mim é que as chuvas caem e desaguam os rios.
Api Braga, guitarra do mar, mas agora sim, Api Braga, muito bom dia. Muito bom dia. Muito obrigado por estar em direto na Rádio Alfa. Olvito, digamos, é um álbum que podemos ter na mão, Olvito 2026, mas há que referir que o digital foi em 2020. Porquê é que foi preciso esperar praticamente 50 anos para ter uma nova gravação sua em físico?
É um exercício que está. O que acontece é o seguinte, Arthur, você está referindo 50 anos por causa dos meus dois disquitos que eu gravei em 70 e 72, é isso? Foi um EP e um single que eu gravei para a Movie Play, ainda antes do 25 de Abril. Depois eu te emigrei, não fiquei cá, e quando regressei, voltei em 1978, regressei do Brasil, e portanto por volta de 79 fui aceito como sócio da Cooperativa Era Nova e voltei a cantar lá por aí, mas nunca pensei mais em gravar, e depois já achei que não era preciso essa intervenção social e parei. Quando me reformei, as coisas não estavam boas, por as questões da Troika também, que andavam por aí à volta da gente, e eu resolvi ver se ainda podia utilizar este dom que me deram para voltar a ir em público, para pedir às pessoas para refletirem um pouquinho mais por o que é que nós andamos aqui a fazer, para isso também, para a gente se sentir bem, um bom estar, a gente se poder se sentir bem ouvir um gajo que não é completamente desafinado. Pronto, mas só que antes de fazer isso, quis ver se gostava de me ouvir. E então o que eu fiz foi, aproveitei uns amigos que estavam a gravar o seu CD, um grupo no fundão chamado Zana Faia, e eles deram um bocadinho de... Aproveitei, eles não podiam usar o estúdio da parte da manhã, deixaram-me ir lá no estúdio para eu gravar para uma meia dúzia, 13 ou 14 canções. E aquilo correu tanto bem que eu até resolvi fazer uma edição pessoal para o CD, que é uma coisa que então saiu esse CD em 2014, chamado exatamente Fundão, para outubro de 2014. E aí eu comecei outra vez a cantar, à medida que as pessoas pediam para aparecer, quando achavam que era interessante a gente ouvirem-me, eu recomecei a cantar. Depois, três anos mais tarde, em 2020, estamos a falar em 2017, tive um músico aqui português, o Benjamin, que eu conheci aqui também ao vivo e que até me deu uma prenda de gravar comigo, em fazer um dueto comigo no seu primeiro disco em português, o Auto Rádio, da canção que eu tinha feito com o Fausto, a Rosi, e que nunca tinha gravado, que é um poema do Reinaldo Ferreira. Então o Benjamin, que também é técnico de som, engenheiro de som, gravou-me um segundo disco, desta vez no estúdio dele em Lisboa, e eu fiz o Lisboa de 2017.
Se me permite, eu gostaria que voltássemos um bocadinho atrás, porque há instantes disse que tinha sido Portugal, precisamente por causa da Guerra Colonial, isto em inícios de 1974, salvo erro da minha parte.
Exatamente.
E obteve o asilo humanitário, não foi asilo político, asilo humanitário, na Suécia. Mas voltemos nos anos 60, precisamente, podemos dizer que o Api Braga faz parte dos cantautores.
Eu era um baladeiro. Eu quando me pergunto como é que querem que eu me apresente assim, pronto, fui baladeiro. A gente cantava, foi as pessoas que começaram a usar a cantiga para chamar a atenção da miséria que nós vivíamos, do ponto de vista social e do ponto de vista das pessoas. Eram mesmo, a pobreza aqui era uma coisa para bestial. Aliás, eu não conheço, Arthur, de nenhum país, mostre-me um que em 50 anos, partindo de onde nós partimos, tenha modificado como nós conseguimos modificar os indicadores de bem-estar com aqui em Portugal. Partimos com 25% de analfabetos e hoje temos quase 40% de licenciados, não é?
Eu gostaria que focássemos da situação atual, porque bom, há certas atitudes, e o facto de haver no Parlamento que o segundo partido com mais deputados seja da extrema-direita racista e xenófoba levanta problemas. Mas, precisamente, quando se fala de 1966, bom, era o baladeiro, a Api Braga era baladeiro, mas enfim, mas, quer dizer, havia um contexto e a música e as letras tinham um peso, era uma maneira de continuar a lutar. Como é que o AP Braga viveu essa situação?
Então, eu era estudante universitário e o que acontecia é que nós, nas associações de estudantes, não tínhamos que submeter as nossas coisas à censura. Portanto, podíamos cantar o que nos apetecia. Também, é claro que nós não podíamos cantar para nos teatros. Eu nunca cantei em teatro nenhum. Eu só cantei em associações de estudantes, em associações recreativas operárias para nos arredores de Lisboa, pronto, aqui à volta da cintura industrial de Lisboa, do Margem Sul também, e onde também nós não tínhamos que ser submetidos à comissão de censura, porque se assim fosse, eles não nos deixariam cantar isso. Aliás, Arturo, o primeiro disquinho que eu gravei, que era um EP com quatro musiquinhas, duas minhas, uma do Luís Silva, três minhas e uma do Luís Silva, que era o Menino Negro Não Entrou na Roda, com um poema do Geraldo Bessa Vítor. Aliás, o Luís Silva foi uma pessoa que foi muito importante para mim, porque foi a primeira pessoa que eu ouvi a cantar coisas que não eram para... Pronto, que depois podíamos cantar outras coisas de outra maneira. Que ouvi isto, foi o Luís que me fez chamar a atenção para isso. As canções dele, dos discos que ele tinha gravado quando estava em Paris, penso eu que era no Chão de um Monte que ele gravava. Mas pronto, voltando ao que o Arthur me perguntou, esse disquito, o primeiro disquito que eu gravei, teve duas semanas à venda, porque ao fim da segunda semana foram retirados todos os exemplares que havia nas discotecas para vender pela polícia.
Hoje, com o tempo, bom, como diz, eu tenho o hábito de dizer ao tempo, anda para a frente, não voltes para trás. Que balanço faz mesmo da música atualmente, porque aos poucos e poucos eles estão a partir? Evidentemente o Zeca Afonso, o José Mário Branco, o Fausto, de maneira que há todo um painel, há todo um representativo daquilo que foi a canção dita de intervenção, ponho intervenção entre aspas, que desapareceu, de maneira que o que é que se passa nesse país, quando sabendo que hoje mais do que nunca é poesia e a música tem importância enorme para dizer, quanto mais não seja aos jovens e não só, meus amigos, olhem, vejam aqui o que se passa e agem.
Mas há músicas que continuam esta saga, porque o Benjamin é um caso disso. Não só o Benjamin, o B. Fachada, e agora a minha memória nunca foi muito boa, e agora cada vez com a idade está melhor. Mas é como que estou a tentar dizer, há músicos jovens que continuam a usar, que estão ativos aqui, que são malta dos seus 20, 30 anos, 40 anos, continuam a utilizar a canção como um método de intervenção social e que chamam a atenção para aquilo que nós temos que tomar atenção se queremos continuar a ter uma democracia.
O Alvito 2026, Bella Ciao, música de luta das camponesas italianas,
a
guerra ciência italiana, a Puente de las Francesas, e aí é a guerra civil espanhola, mas não só, porque a Erguer a Voz e Cantar de António Macedo, que infelizmente também já nos deixou, e música que tinha falado há instantes, de música é de Fausto, de maneira que neste disco, o que é que tentou, quer dizer, exprimir neste disco, porque desde Guitarras do Mar, passando pelas trovas do Vento que Passa, a letra de Manuel Alegre e a música de António Portugal, é um universo. O que é que nos quer dizer com a escolha das canções que gravou?
Na capa lá dentro diz, eu acabo, são os agradecimentos e as pessoas que me ajudaram a fazer isto, e acabo: seria um privilegiado se conseguir proporcionar a quem as ouvir as cantigas que eu referi aqui uns momentos de bem-estar ou de reflexão sobre o mundo e o tempo em que vivemos. E porquê é que eu fui por estas cantigas? Eu fui, no fundo, são cantigas que eu fiz ou aprendi a cantar e que resolvi juntar agora num CD-zito, porque ainda não tinham sido gravadas ou precisavam de um registro um bocadinho melhor. Pronto, e foi isto que eu tentei fazer, pastor, e é isso que eu quero, que as pessoas possam usufruir um bocadinho do bem-estar, mas não deixem de pensar, quando podem pensar sobre o mundo em que andamos.
Provas de AP Braga a propósito do seu álbum Alvito, e aqui fica mais um extrato desta feita, o tema é O Viajante Clandestino X.
Teu nome, teu disfarce, tua ausência do círculo familiar, a tua viagem, tua febre, tua recusa e anuência, teu estar conosco e entanto a nossa margem. Teu corpo, teu sentido, tua luta, teus olhos fundos, teu perfil estranho, teu quarto, teu refúgio, cela gruta, teu gado fugidio, teu amanho.
Extrato de A.P. Braga, o Viajante Clandestino X, o álbum tem por título O Vito. E continuamos na música. Concert, compositrice portuguesa, repertório por pianista. 45 pianistas, 45 pianistes jouent des compositrices portugaises. Eh bien, justement, il va y avoir un concert, méga concert, avec la présence de 7 nombres de conservatoires de musique du Portugal et de France, on parlera ça tout à l'heure, et de plusieurs dizaines d'élèves pianistes. Mais déjà, un thème, ça va peut-être nous faire l'introduction, tout simplement, c'est une composition de Herman José Fernandes, 3 peças estudo. Extrait de composition de Herman José Fernandes et le titre, je vais le dire en portugais, 3 peças estudo. Bruno Bertoise, bonjour. Alors, 13e concert, Ava, cette fois-ci compositrice portugaise. 45 pianistes jouent des compositrices portugaises. Bon, on a eu tout, on a mis des partitions pour les gauchers, merci, ça qui me concerne, Bruno Bertoise, mais pas seulement à quatre mains, bon, de fado, bon, on pourrait continuer comme ça. Et ça, c'est très important parce qu'il y a tout, comment dire, il y a plein de compositrices portugaises, bon, qui sont méconnues, probablement, qui sont pratiquement jamais jouées, et vous avez voulu, d'ailleurs, vous êtes pas tout seul, hein, pour préparer tout ça. Il y a également João Pedro Mendes dos Santos, sans oublier les éditions Ave Musique, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ces compositrices portugaises?
Alors, ça va être effectivement un moment très très dédié à ces femmes portugaises compositrices qui ont enrichi le répertoire à Lisbonne, à Porto. Et c'est le 12e volume de la collection et je voulais vraiment le dédier, João Pedro Mendes dos Santos également, le dédier aux compositrices. Alors, comme vous avez dit, il y en a qui n'étaient pas connues, qui ne sont pas connues, parce qu'elles sont soit anciennes, elles appartiennent à la fin du 19e siècle, elles ont laissé des belles pièces, mais ce n'étaient pas des compositrices qui ont laissé une trace, je dirais, historique importante. Mm-hmm. Mais par contre, en même temps, ces pièces sont très belles. On a des compositrices du 20e siècle qui ont parfois des noms français, comme Constança Capdeville ou comme Francine Benoît, qui se sont complètement intégrées à la musique portugaise et qui ont laissé de très belles pièces. Et puis, il y a aussi des œuvres d'aujourd'hui, puisqu'on a des compositrices en activité, comme Anne Victoria d'Almeida, Olga Silva, que nous allons accueillir à Paris bientôt. Et c'est vrai que je suis très content parce que on ne dédie pas le concert qui comportera même 50 pianistes cette année. On ne va pas le dédier seulement aux compositrices.
disons qu'il y aura aussi quelques œuvres de compositeurs. Il n'y a pas de raison. Je trouve que c'est très important que tout le monde soit mêlé, mais c'est sûr que l'essentiel des œuvres seront des compositrices. On en est absolument ravis, et je crois que tous les professeurs et tous les élèves ont beaucoup adhéré à la thématique.
Alors, ça fait un petit peu le bilan, hein, ça commence à passer le temps, mine de rien, parce que depuis que ça a commencé, depuis 2013, hein, 104 établissements oui. ont participé au concert de lancement à Paris, totalisant 336 jeunes pianistes et 146 professeurs, ni plus ni moins. Oui. Donc, c'est tout le travail où on va venir, parce qu'on va parler des conservatoires qui seront présents cette année. Il y a du Portugal et également de France. Mais ça concerne les partitions des compositrices portugaises. Il y a eu un travail de recherche, parce qu'on sait très bien que vous aimez bien aller chercher des choses qui sont cachées ou oubliées.
Oui, j'ai recherché beaucoup. Et c'est vrai que pour cela, l'aide de mon partenaire Jean-Pedro Mendes-Santos est très importante parce qu'il a une collection privée très très riche, mais aussi j'ai essayé de trouver des archives de la Bibliothèque nationale de Lisbonne. Et puis, bien sûr, on a passé quelques commandes d'œuvres nouvelles. Et puis, il y a des œuvres qui appartiennent déjà à des choses éditées et d'autres qui ne sont pas éditées. Donc, c'est vrai que c'est un rassemblement. Ça demande beaucoup de temps à préparer un volume comme celui-là parce qu'il y a beaucoup de musique. Il y a beaucoup de biographies, vous allez peut-être en parler, qui sont écrites en trois langues sur chaque compositeur, compositrice, pardon. Et le travail également de correction des partitions qui prend beaucoup de temps et qui doit être le mieux fait possible. Donc, voilà, ça, c'est un travail éditorial. Avant, ou en tout cas pendant l'organisation de ce grand concert de lancement qui, évidemment, lui, demande de son côté aussi énormément d'investissement parce qu'il faut gérer quand même 50 pianistes et articuler le programme, réveiller les professeurs qui parfois ne donnent pas de réponse tout de suite. Enfin, vous savez, c'est tout ça. C'est une organisation très complète qui prend l'année, en fait, qui est établie sur une année.
Voilà, c'est une machine. D'ailleurs, le répertoire est publié en trois langues, français, portugais et anglais. Alors, rapidement, et avant qu'on aille justement au fondant, puisque Olga Silva, justement, elle est compositrice, mais également professeure, vous l'appelez pédagogue, à l'Académie de musique du fondant, justement. Alors, par rapport au conservatoire, donc, on a Paris, on a la région parisienne, on a la province quand même, et le Portugal, ça a été facile, parce que bon, il y a le contact avec eux, et après, il faut qu'ils trouvent aussi les fonds pour venir à Paris organiser tout ça, de leur côté aussi.
Oui, bien sûr. Ça demande un investissement. Souvent, les académies, les conservatoires aident sur leurs fonds propres. C'est quand même une aventure qui laisse beaucoup de traces chez les jeunes pianistes qui y participent, venus du Portugal, parce que c'est vraiment une fête, ça se passe à Paris, on les reçoit le mieux possible. Je crois que ça leur permet de défendre aussi de leur côté leur propre culture. C'est une opportunité très belle. Et donc, on aura aussi élèves du Conservatoire National de Lisbonne, élèves du Conservatoire de Musique de Barcelone. On aura aussi quelques nouveaux qui vont venir cette année. En tout cas, on est ravis de les accueillir en même temps que les Français. Voilà, c'est un grand mélange et je crois que ça leur permet d'avoir des contacts nouveaux et parfois même de créer des échanges entre établissements en dehors de mon projet personnel.
Voilà, bon, par rapport au Portugal, sauf erreur de ma part, Bruno Batoise, Conservatório de Música de Barcelos, Academia de Música do Fundão, Escola Música de Nossa Senhora do Cabo, de Linda Velha, arredores de Lisboa, e Conservatório da Música Calouste Gulbenkian de Aveiro. Alors, ça concerne les conservatoires français. Bon, il y a Paris, il y a la région parisienne, mais on va quand même à Montpellier. Quand même, on va dans
oui,
le sud de
oui,
la France.
Oui, oui, absolument, absolument. Un jeune pianiste excellent va venir du Conservatoire Régional de Montpellier. Et pour la première fois, on a la participation du Conservatoire Régional de Versailles avec sa professeure et le vice-directeur, le directeur adjoint du Conservatoire qui sera présent, tout comme le seront le conseiller culturel de l'ambassade du Portugal et aussi le vice-président de la Camara Municipale de Fundão, qui fait le déplacement exprès, puisque c'est vrai qu'il y a plusieurs pièces de compositrices de l'Académie de Fundão dans ce volume, et la présence, bien sûr, importante de cette compositrice, Olga Silva, qui écrit des pièces tout à fait adaptées, justement, aux jeunes pianistes, et je me réjouis qu'elle soit là avec nous à Paris.
Oui, justement. Alors, on pensait l'avoir par téléphone. Apparemment, il doit avoir un petit problème de communication. Mais je me permets, ça, je demande à Manuel Chandre, de passer un petit extrait, justement, d'une composition de Olga Silva, Soundtrack. De la composition, extrait, la composition, bien sûr, parle en portugais, Bruno, il comprend aussi, il n'y a pas de souci. Alors, Bruno, justement, on attend d'établir un contact avec Sonia Silva. Quand j'ai écouté cette composition, je me suis trouvé ailleurs. À savoir, parce que c'est quelque chose qui nous mène vers le large, comme si on planait. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, Bruno Bertoise.
Oui, elle a imaginé vraiment une scène de film très belle, très étendue, et ça a été le point de départ de cette pièce. Et nous l'avons beaucoup aimée, nous l'avons éditée dans le volume consacré au piano à quatre mains, et puis je l'ai enregistrée avec mon partenaire João Costa Freire, et c'est vrai que cette pièce, on la joue souvent dans certains programmes, et on l'aime beaucoup. C'est un exemple de ce que sait faire Olga Silva.
En ce qui concerne les conservatoires de musique français, je sais qu'à un moment donné, il y avait un conservatoire en province. La province, c'est dans mon sens du terme, avec un P majuscule. Hein. Moi, je défends la province. Maintenant, on les appelle territoire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une autre affaire. Et je sais que c'était la région de Normandie, et qu'ils avaient un genre de, je ne dis pas de jumelage, mais ils travaillaient ensemble avec le conservatoire de Bruxelles. Vous savez, ça continue, ces échanges.
Actuellement non, parce que la professeure française est partie dans un autre établissement, donc elle a d'autres fonctions et d'autres missions. Mais en tout cas, il y a eu toujours un rapport entre le conservatoire du Grand Avignon et la ville de Abranche, qui a une très belle école secondaire, qui a des très bons pianistes. Et donc cet échange-là a continué pendant plus de temps, d'ailleurs, qu'un an. Ça a continué pendant 2 ans après leur rencontre. Donc voilà, ça aussi, c'est un peu des graines qu'on sème et qui permettent aussi aux Français de continuer à avoir des contacts avec le Portugal.
Alors, depuis des années que les répertoires pour pianistes sont publiés, justement, est-ce que vous avez un background, pour parler bien français, les conservatoires, pour eux, c'est un outil de travail très important. Est-ce que finalement les compositeurs portugais rentrent petit à petit dans les études des conservatoires de musique français?
Oui, il faut encore du temps. Il faut encore du temps, mais c'est vrai que plusieurs conservatoires ont saisi déjà, comme le conservatoire du 11e arrondissement à Paris, le conservatoire d'Avignon, ont saisi l'opportunité d'avoir cette collection pour organiser souvent des concerts thématiques. Donc il y a ceux qui donnent une continuité au sein de leur établissement. C'est pas forcément toujours le cas pour tous les professeurs, mais en tout cas, je dois quand même saluer la fidélité de tous ceux qui reviennent. Le bonheur de voir des nouveaux professeurs intéressés comme à Versailles, mais aussi le fait que, qu'il y a quelque chose qui se pérennise chez un certain nombre de professeurs en France, et c'est quand même le but de la collection, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que le répertoire portugais pénètre mieux dans le travail des professeurs ici en France. Mais oui, effectivement, ça donne des projets, donc ça continue vraiment ça augmente à chaque fois. C'est pour ça que cette année on a 50 pianistes et c'était difficile de refuser.
Est-ce que, bon, une question, je dis pas bête et méchante, mais enfin je vais faire l'avocat du diable, est-ce que les autorités compétentes culturelles, portugaises, musicales ou autres, tiennent compte et soutiennent votre travail, notamment des AVA Musical Edition?
Bon, c'est assez difficile. C'est assez difficile, le monde de l'édition au Portugal. C'est un éditeur qui fait un travail remarquable, car il a évidemment préparer des éditions modernes de tout un ensemble de symphonies du répertoire portugais et pas seulement de musique de chambre. Et par exemple, si on veut louer, si on veut interpréter quelque part dans le monde la symphonie, par exemple numéro 2 de Jolie Braga Sanche, eh bien on va se procurer la partition moderne chez Ava, et donc ils ont une place très importante. Par contre, c'est très difficile toujours parce qu'il y a une vraie lutte au Portugal entre les photocopies, ceux qui défendent le fait qu'il ne faut pas photocopier pour faire bon. Donc ça fait vraiment l'objet d'une bataille juridique et d'une bataille à l'Assemblée nationale qui devrait tout naturellement se résoudre normalement par le fait qu'on reconnaisse les droits d'auteur, mais ça reste encore une chose très difficile à défendre pour les éditions.
Et d'ailleurs, je propose, et à ce moment-là, on pourrait avoir en ligne aussi, entre autres, João Pedro Mendes dos Santos, mais également, je pense, à Anne Vitorine d'Almeida, parce qu'elle mène un combat, justement, pour que les droits d'auteur soient respectés. Alors, je ne peux pas oublier, c'est les élèves. Donc, pour les élèves, bon, c'est quand même un genre d'examen, le fait qu'ils viennent dans ce concert, parce qu'ils se préparent entre-temps, je crois.
Oui, bah ils se préparent beaucoup. Ça demande du travail. En plus, ce sont des œuvres qu'ils n'ont jamais entendues de leur vie. Donc, il faut faire un travail avec le professeur très méticuleux. Mais ça, c'est vrai que je suis toujours très surpris de l'investissement artistique des professeurs. Ils savent que c'est quand même un concert de haute tenue. Ils veulent donner le meilleur de leurs élèves. Et puis, c'est important. Certains d'entre eux reviendront jouer à l'occasion de la fête de la musique cette année à l'ambassade du Portugal pour une fête de la musique que j'organise avec monsieur le conseiller culturel. Et donc, il y aura la présence de pianistes français qui joueront la musique portugaise. Il y aura un moment musical de piano. Et j'en suis très content. Ils sont absolument ravis de cette opportunité.
Donc, travail. Pour Neuvatois, ça fait combien d'années que vous semez pour la musique portugaise?
Je crois que j'ai...
combien d'années? On a perdu le compte, je crois.
Écoutez, ma deuxième rencontre dans ma vie au Portugal était en 1991, et à partir de 1995, j'ai commencé à travailler à fond le répertoire, à faire des recherches très suivies, donc c'est plus de 30 ans, hein, donc je suis tellement reconnaissant au monde portugais, à sa culture, à sa littérature, aux personnes que j'ai pu connaître grâce à la musique et à cette passion qui continue. Donc, je n'ai aucune raison. C'est un peu ma deuxième. C'est quand même un peu ma deuxième nation, hein, mon deuxième pays. Donc, même si je n'ai pas de racines portugaises, je suis tellement attaché au Portugal qu'il n'y a aucune raison que je ne continue pas. C'est une évidence pour moi, en tout cas.
Et je vous remercie, Bruno Bertoise, de tenir. Et surtout, c'est que vous faites connaître quelque chose de très important. C'est un patrimoine musical portugais. Et il y a plein de découvertes, peut-être encore à faire. Alors, bien entendu, pour le public en général, allez là-bas pour voir ce concert à partir des 18h. Bon, entre les professeurs, les élèves, les familles, etc. Bon, la salle est pleine.
Beaucoup, beaucoup de monde. Toujours beaucoup, beaucoup de monde. Et ça sera en deux parties. C'est-à-dire que la première partie commence à 18h, la deuxième partie commencera à 19h30. Donc on peut aussi se dire que la deuxième partie est aussi accessible que la première si on n'a pas le temps de venir à 18h.
Merci Bruno Bertoise.
Bon,
je fais une liaison. Bon, la musique est complètement différente, mais c'est fait partie du patrimoine portugais et français. Dans la mesure, on va écouter Catherine Ribeiro, plus les Alpes, le titre Balave des Águas. Ça fait rappeler un petit peu à Molly Rodrigues, mais c'est une autre affaire. Catherine Ribeiro. Minha
minha vida. Como vivo amargurada, oh meu amar, minha vida, como vivo amargurada.
Catarina Ribeiro, Balada das Águas. E, bom, estamos a terminar. Obrigadão, Manuel Alexandre. Espero regressar na próxima semana, mas, como diz o Sérgio, parte sem dor.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parte sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.